les temps modernes et la révolution.
François le Premier, le roi chevalier, a été couronné roi de France le 25 janvier 1515 de la cathédrale de Notre-Dame de Rouen et il y a régné jusqu'à sa mort en 1547. Immédiatement après ce couronnement, il s'est disputé pour le duché de Milan. Le 13 septembre 1515, il a remporté la victoire de la bataille de Marianne et Milan était dorénavant français. La France comme État était le plus puissant au niveau de sa puissance militaire en Europe. En 1516, François le Premier a conclu le concordat à Bologne avec le pape et a en par cela un contrôle presque illimité de l'Église. Pendant ce pouvoir, l'art en France s'est développé. Il a fondé le Collège de France à Paris, le Collège de trois langues, qu'il existe toujours. C'est pourquoi il est important aujourd'hui. Grâce à ses nombreux projets de construction, il avait besoin d'argent. C'est pourquoi il a doublé les impôts pour les agriculteurs.
Le texte de Luther a été colporté en France. Farel a apporté ses idées en France. Mais la Sorbonne a fait censurer les écrits. Quand même, les écrits ont été imprimés en secret et ils ont été disséminés d'une main à l'autre. Le protestant croit que la Bible est la seule source de la révolution divine pour l'humanité. Et pareil, d'après eux, elle nous apprend tout qui est nécessaire pour la rédemption de ce péché.
Copernic prouve que la Terre tourne autour du Soleil. Nicolas Copernic est né le 19 février 1473 à Turin. Il est connu pour avoir découvert que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse. Cette théorie s'appelle l'idée d'un univers héliocentrique. C'était une découverte très importante parce que la science n'était pas très avancée à cet homme-là. Mais l'idée d'un univers héliocentrique était aussi dangereuse parce que l'Église catholique était contre cette théorie. Copernic était astronome, physicien, mathématicien et médecin jusqu'à sa mort le 24 mai 1593 à l'âge de 70 ans. Toutefois, son plus grand travail, c'est qu'il a découvert la vision du monde héliocentrique. N'avait-il pas été éprouvé, on ne serait pas encore en mesure de communiquer par satellite.
Le massacre de la Saint-Barthélemy. Lors du massacre de la Saint-Barthélemy le 24 août en 1572, des milliers des huguenots, donc des protestants français, ont été assassinés par les soldats de la mère du roi Charles IX, Catherine de Médicis. Et ne voulant pas, probablement, tuer que les chefs militaires du clan protestant, mais beaucoup d'autres personnes ont aussi été tuées. Les huguenots étaient une grande menace pour le roi catholique et la stabilité en France. L'un de ses morts était l'amiral Jaspard de Coligny, le chef des huguenots. Après le massacre de la Saint-Barthélemy, il y a eu une bougerie énorme à Paris et bientôt dans toute la France. Cette nuit est un événement important de la guerre des religions, quand non seulement la France mais toute l'Europe a lutté contre la Réformation, un mouvement qui voulait retourner aux sources du christianisme. Suite à ce massacre, il est devenu clair que les protestants n'épouseraient jamais un pied à terre en France. Comme beaucoup d'huguenots enfouis il y a encore aujourd'hui dans des diverses régions de la France, aucun ou presque aucun protestant.
Henri IV. Henri IV, alias Henri le Grand, était un roi français qui régnait de 1589 jusqu'à son meurtre en 1610. Henri est né en le 13 décembre 1553 à Pau-Navarre, qui fait aujourd'hui partie de l'Espagne. Il était la tête du parti huguenot, mais pour devenir roi, il fallait qu'il se convertisse au catholicisme. Il a reconstruit le pays après la guerre civile, qui a dominé de 1562 jusqu'à 1598, entre la partie huguenote et le pouvoir central, et a uni la nation française. L'innovation la plus importante était l'édit de Nantes, qui a donné la liberté de religion aux huguenots. Depuis, Henri a rendu la France plus forte et puissante.
Édit de Nantes. Cet édit a donné la tolérance religieuse et les droits civils aux huguenots. Les huguenots étaient des protestants français dans la France pré-révolutionnaire. Toutefois, le catholicisme a été créé en tant que religion d'État. Auparavant, les huguenots avaient été persécutés pendant des années. Nous appelons ces persécutions la guerre des huguenots. Le 13 avril 1598, à Nantes, Henri IV a signé l'édit de Nantes. Il a permis aux protestants de construire des églises et le pasteur a été payé par l'État. Il a rendu cependant la propagation du protestantisme impossible, parce qu'il a seulement permis au catholicisme de se propager. Louis XIV a révoqué le 18 octobre 1585 ce décret. Il voulait promouvoir le catholicisme et mettre fin à la liberté du huguenot.
Louis le XIII est né en 1601 à Fontainebleau et il est mort en 1643 à Saint-Germain-en-Laye. De 1610 à 1643, Louis était le roi de France et de la Navarre. Il avait un fils qu'il appelait Louis le XIV. Louis était le plus jeune fils d'Henri le IV. Quand Henri est mort, Louis était déjà roi de France. À ce moment, il avait 9 ans. Louis n'avait pas de belle enfance parce que son père le traitait de façon très stricte. Louis le XIII est devenu roi en 1610. Il voulait réhabiliter la loi. L'absolutisme a été renforcé par Louis le XIII. Cet événement a un effet sur la France actuelle. Il a causé que la France est un pays libre. Les citoyens ont plus de droits. Pour la France, ce roi était important jusqu'à aujourd'hui.
Louis XIV, connu sous le nom du Roi Soleil, est né le 5 septembre 1638. Lorsque son père est mort, il est devenu son successeur au trône. Mais il avait seulement 4 ans et c'est pourquoi il ne pouvait pas assumer les obligations d'un roi. Alors sa mère a pris la régence avec l'aide du premier ministre, le cardinal Mazarin. À 13 ans, Louis XIV a pris une partie du pouvoir. Maintenant, il gouvernait avec le cardinal. En 1654, il a été officiellement nommé roi de France et du Navarre. L'opposition a voulu lui prendre son pouvoir et pour cela, ils ont utilisé son âge comme moyen de pression. Donc, lui a quitté Paris. En 1661, Louis XIV a pris le pouvoir absolu et il a construit un château à Versailles parce qu'il ne voulait pas retourner à Paris. Pendant son règne, il a mis une limite au pouvoir politique de la noblesse et du Parlement. De plus, il a renforcé le pouvoir royal et il a agrandi l'armée. Il a participé à beaucoup de guerres parce qu'il a voulu agrandir son pays et par cela obtenir une position d'influence en Europe. À cette période, la France gagnait du pouvoir et agrandit son territoire. Mais par la guerre de succession des Palatinois en 1688, la France a perdu de grandes parties de son territoire. Louis XIV est mort le 1er septembre 1715. Il est toujours le symbole de l'absolutisme et du baroque en Europe parce qu'il était un monarque absolu connu pour son apparence luxueuse et pour sa culture à la cour française. C'est une personne très importante pour l'histoire de France parce qu'il a agrandi le pouvoir de la France en Europe et a construit un monument célèbre, le château de Versailles, qui est un chef d'œuvre jusqu'à aujourd'hui.
Au XVIe siècle, en France, les huguenots, les protestants français, ont été poursuivis. C'est pourquoi Henri IV avait fait l'édit de Nantes pour assurer la liberté de religion. Mais au temps de Louis XIV, la poursuite est devenue encore plus grave. Le 18 octobre 1585, Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes en signant l'édit de Fontainebleau. qui disait que la religion catholique était la religion d'État et que le protestantisme était interdit. À cause de cela, beaucoup de protestants sont allés en exil, par exemple aux Pays-Bas ou en Suisse, dans les régions calvinistes, parce qu'ils n'y étaient pas poursuivis. Le calvinisme est un mouvement théologique et il repose sur les théories de Jean Calvin. Dans le calvinisme, la foi catholique est une tentative de diminuer la souveraineté de Dieu. La foi des huguenots a été influencée par le calvinisme. L'Église réformiste a aussi été forcée de quitter la France. Cet événement est important pour l'histoire française parce que presque tous les protestants se sont sauvés et il n'y en a plus beaucoup en France.
Louis XV, l'arrière-petit-fils du roi Soleil Louis XIV et le fils de Louis de Bourgogne, est né le 15 février 1710 à Versailles. Son père, sa mère et son frère sont morts à la suite d'une maladie, la rougeole. Alors le petit Louis de 5 ans est devenu l'héritier du trône. Mais il ne pouvait pas encore régner à cet âge-là, donc le duc d'Orléans faisait ce travail à la place de Louis. Seulement, en 1726, Louis a pris le gouvernement dans ses mains. Louis XV était roi au siècle des Lumières, le siècle pendant lequel il y avait la rébellion contre le système de l'absolutisme. L'absolutisme est un système où le roi a tous les pouvoirs. Alors, il réunissait le pouvoir législatif, judiciaire et exécutif en une seule personne. De plus, ce système était considéré comme donné par Dieu. Quelques philosophes des Lumières, comme Denis Diderot ou Jean-Jacques Rousseau, ont critiqué l'absolutisme de maintes fois. Louis XV avait des problèmes avec ces personnes, mais aussi avec les parlements. Il a trouvé une solution très facile à ces problèmes. Il les a interdits. Enfin, le 29 avril 1774, Louis est mort de la variole. Sous mérite, entre guillemets, le développement de l'absolutisme sous son règne comme monarque.
Louis XVI, roi de France. Louis XVI est né en 1754 à Versailles et après la mort de son père, il était le prétendant au trône. Il s'est marié avec Marie-Antoinette et en 1774, il est devenu le roi de France. Il a été un monarque absolu et a repris un pays hérité de son grand-père. Il a essayé de sauver l'État en façade des économies et souhaitait des réformes administratives qui n'ont enfin décompté jamais eu lieu. Louis XVI a pu convoquer les États généraux, ce qui a mené à la Révolution française. En 1791, sa fuite a été empêchée et une nouvelle constitution est entrée en vigueur. La famille royale a été arrêtée et le 21 janvier 1793, Louis XVI a été exécuté pour trahison. Si la Révolution française n'avait pas été causée par Louis XVI, l'ancien régime n'aurait pas été abandonné et l'histoire de France aurait continué différemment.
1784, l'invention de la machine à vapeur. La machine à vapeur a été inventée par Thomas Newcomen, un ingénieur anglais, en 1712 en Angleterre. Cette machine a été utilisée en France au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle dans les mines et l'industrie textile, pour les chemins de fer et dans l'industrie du transport maritime. James Watt a beaucoup amélioré l'efficacité de la machine et il a breveté sa construction en 1769. Mais la machine à vapeur de Watt a été introduit plus tard par un mécène anglais en Belgique alors occupée. La France a beaucoup profité de ces innovations techniques. Surtout l'industrie textile est devenue le plus important secteur de l'industrie de la France. Si la machine à vapeur n'avait pas été inventée, nous n'aurions pas eut peut-être des centrales électriques, des chemins de fer, et l'industrialisation n'aurait pas eu lieu, et donc la France ne serait peut-être pas aussi développée qu'elle l'est aujourd'hui.
Le 5 mai 1789, Louis XIV a convoqué une réunion des États généraux, un ensemble des membres de la noblesse, du tiers-État et du clergé, à Versailles pour la première fois depuis 1614. La noblesse avait mis une pression sur le roi à cause d'une crise financière. La noblesse, le roi et le tiers-État ont essayé de résoudre les problèmes du pays, mais avaient des points de vue assez différents. D'abord, ils ont décidé que le tiers-État, environ 98% de la population, aurait dorénavant le double des voix. Mais ça ne les a pas beaucoup aidés parce qu'ils n'avaient quand même pas assez d'influence. Le 17 juin 1789, le tiers-État avec des dissidents et des autres ordres se sont proclamés d'Assemblée nationale, ce que le roi ne pouvait qu'accepter. Cette révolution bourgeoise et pacifique a manqué le début d'une monarchie constitutionnelle et la fin du système d'absolutisme, du pouvoir royal des anciens régimes.
La prise de la Bastille du 14 juillet 1789 est devenue le symbole de la Révolution française. Comme le peuple de Paris s'est révolté à cause de la famine parce que le pain était trop cher pour eux, les gens ont mis en flamme des maisons de la douane, espérant que les coûts du pain baisseraient. Les jours avant la prise, les gens ont saccagé des magasins d'armes et puis, le 14 juillet, ils se sont réunis pour prendre d'assaut la Bastille parce qu'ils ont voulu plus d'armes et de munitions. Beaucoup de gens ont été tués par les gardes, mais après la deuxième vague des gens, les gardes sont capitulés. Les nobles qui ont capitulé ont été décapités par les gens furieux. À cause de la prise de la Bastille, l'Assemblée nationale a formé une garde pour se protéger. La prise de la Bastille n'était pas importante pour les cours de la Révolution française, mais elle a une valeur symbolique pour les Français, parce qu'ils l'ont emportée pour la première fois sur les gardes et sur le régime français. Aujourd'hui, le 14 juillet est une fête nationale dans toute la France pour célébrer cette première fois où c'est le peuple qui a mis une pression sur le régime français. Le début symbolique de la Révolution française est pour montrer que tous les peuples peuvent changer le régime de leur pays s'ils ne sont pas contents.
En 1789, les paysans ont fait une rébellion pour abolir les privilèges de la noblesse. Ils avaient beaucoup de privilèges comme le servage, c'est-à-dire qu'ils possédaient des paysans et la corvée de service que les paysans devaient rendre à leur maître ou de l'argent qu'ils devaient leur donner. Le 4 août 1789, dans le massacre de la Saint-Barthélemy des privilèges ont été abolis. Les droits spéciaux de la province et de la ville ont été abolis aussi et le clergé devait dorénavant renoncer à beaucoup de ses privilèges aussi. Le 26 août 1789, les droits de l'homme et le droit civil ont été introduits. Sous la pression de la masse, Louis XVI a dû sanctionner. Tout cela a été force de se réinstaller après une tentative de s'enfuir à Paris.
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est un des textes fondamentaux publiés en France sur la démocratie et la liberté. Elle a été adoptée le 26 août 1789. L'Assemblée nationale française avait décidé d'écrire cette déclaration pour mettre fin à l'insatisfaction générale avec le gouvernement et pour garantir à tous les membres de la société leurs droits et obligations. Cette déclaration est basée sur le modèle de la Déclaration d'indépendance de 1776 et la philosophie des Lumières du XVIIIe siècle. Elle décrit le droit, de l'homme et du citoyen et a ainsi marqué le début d'une nouvelle ère en Europe. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen se compose d'un préambule de 17 articles. Elle contient les règles de base concernant les personnes, leurs droits et ceux de la nation. Elle explique qu'il y a des droits naturels imprescriptibles comme la liberté, la propriété, la sécurité et la résistance à la suppression. Chaque être humain doit être égal aux autres, surtout devant la loi et le droit, et sans tenir compte de sa race, son religion ou son orientation sexuelle. Elle parle aussi de l'importance de la séparation démocratique des pouvoirs.